Mal dormi ? Réconciliez-vous enfin avec votre literie. Grâce au confort Tempur, votre matelas s'adapte à votre corps pour un sommeil de rêve. Pour son anniversaire, Tempur vous offre du confort en plus. Profitez-en. Jusqu'au 25 mai, agrandissez votre literie à prix unique. Voir conditions et listes des revendeurs participants sur tempur.com.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y aura 100 ans le 18 mai prochain, naissait Charles Trenet, peut-être sans doute le plus grand des chanteurs français. C'est une émission hommage que nous propose Franck Ferrand dès aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Trenet, c'est un peu de notre vie à tous. Ces chansons ont tellement marqué leur siècle qu'elles font partie de la mémoire collective des Français. Voilà un artiste qui, 12 ans après sa mort, n'a toujours pas connu d'éclipse. Nelson Montfort vient de consacrer un ouvrage au fou chantant. Cela s'appelle « Le roman de Charles Trenet », c'est aux éditions du Rocher. Qui mieux que l'ami Nelson pouvait transmettre la ferveur, la joie de vivre, la folie douce et enchanteresse de Trenet? J'ai aussi invité Christian Lebon, qui pendant près de 20 ans a été un ami proche du grand homme. Il va pouvoir nous raconter comment il était à la ville, en privé.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Il y aura 20 ans le 19 mai prochain, 20 ans déjà. Ce soir-là, nous sommes quelques centaines d'amis et de fans, je ne fais partie que de la deuxième catégorie, hélas, à nous retrouver dans la salle magnifique de l'Opéra Bastille pour célébrer avec ferveur, au cours d'une soirée d'anthologie, les 80 ans de Charles Trenet. La salle est brillantissime, on y reconnaît notamment Marcel Carnet, Marcello Mastroianni, Jean Marais, le président Mitterrand, alors en exercice, tous disparus depuis. Sur scène, les grands chanteurs de l'époque, y compris les plus jeunes, et ils se succèdent tous pour rendre hommage au fou chantant, jusqu'à ce que lui-même apparaisse enfin, et je puis vous dire que dans mon esprit, le souvenir est intact et qu'il est enthousiasmant. La silhouette est massive, écrit Nelson Montfort dans la biographie qu'il vient de consacrer à Charles Trenet, les boucles toujours blondes, le teint vermeil. Soudain, le personnage dessiné par Cocteau est là, sur la scène, comme chez lui, avec son costume outre-mer, son œillet rouge sur le cœur et le fameux chapeau rond en auréole. Quelques années l'ont à peine effleuré, l'homme est entré en scène à petits pas et la clameur fervente qui l'a accueilli s'est enfin calmée. Il se tient debout, immobile, les yeux mi-clos, prisonnier d'un halo de lumière. Un immense silence s'est abattu dans la salle. L'homme savoure ce moment intense, la gloire, le bonheur. Puis il ouvre les paupières, son regard bleu étincelle, vif, intact, les légendaires yeux bleus, bleus comme le ciel de son midi natal, bleus comme la mer qui roule inlassable dans ses chansons, bleus comme les nuages et les oiseaux, les fameuses prunelles d'azur s'écarquillent et s'arrondissent telles des billes étincelantes et la chanson fuse, fraîche comme au premier jour. Je chante soir et matin, je chante, c'est la chanson de Charles Trenet évidemment. Voici ce qu'écrit Charles Aznavour en préface d'un bel album que Pierre Sacca avait consacré à Trenet aux éditions numéro 1. Les garçons, les filles, les jeunes, les vieux, les ouvriers, les artistes, les intellectuels, les imbéciles, les amoureux, tous lui emboîtent le pas. Paris est conquis, puis la France et le monde. Ses refrains sont sur toutes les lèvres, son nom dans tous les cœurs. Celui que l'on a surnommé le fou chantant invente, explose, bouscule, chamboule, dépoussière, démode. Charles Trenet nous a quittés en février 2001, après une seconde carrière tellement brillante qu'elle en aurait presque fait oublier la première. Il était né le 18 mai 1913 à Narbonne. On annonce alors à sa mère, sa chère mère qu'il ne quittera jamais, que son bébé est le plus gros nourrisson de l'année. Ce que Charles, devenu adulte, commentera en ces termes. À Narbonne, au pays du rugby, des Romains et des Visigoths, c'est un compliment, le poids est de bon augure. Voilà bien l'esprit de Trenet, toujours prompt à la boutade, un esprit qu'a bien connu Christian Lebon, l'un de ses derniers amis proches. Je suis heureux qu'il puisse être avec nous dans ce studio, tout comme le grand Charles lui-même. Il est là, écoutez-le.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin.
Mais on chante dans ce studio, on chante dans la régie, on chante avec Charles Trenet. Bonjour Nelson Montfort.
Bonjour Franck,
merci,
bonjour à vous tous.
Merci d'être venu avec ce roman de Charles Trenet qui paraît aux éditions du Rocher et qui est une sorte d'hymne, d'ode à la joie et d'hymne d'amour, hein, de déclaration d'amour à Charles Trenet. C'est une vraie passion que vous avez eue, vous aussi, on est un certain nombre, c'est le point commun.
Ah bien sûr, en tout cas nous trois autour de cette table, je suis très heureux de croiser Christian. Oui, c'est une déclaration d'amour en 20 chapitres. 20 chapitres qui portent chacun le titre d'une chanson. Naturellement, il a fallu faire des choix. Ça n'a pas été facile au milieu d'un répertoire absolument énorme. J'ai évidemment privilégié les chansons les plus connues, telles que celles que nous venons d'entendre, mais aussi des chansons peut-être un petit peu moins connues et qui, pour moi, en tout cas, ont représenté des grands et très, très beaux moments.
Alors, il faut revenir sur la prime enfance de Charles Trenet. Une vie familiale qui, au départ, ne le prédispose pas spécialement aux arts et à la musique en particulier. Le père est notaire.
Son père était effectivement notaire à Perpignan. Sa mère, Marie-Louise, à laquelle il est resté profondément attaché toute sa vie, même si elle lui a infligé une sorte de blessure involontaire en s'enfuyant du côté de Berlin et de Budapest. Il y fait référence dans une de ses plus belles chansons, Fidèle, une maman partie pour Budapest. Eh bien, tout ça est vrai.
Une maman partie pour Budapest.
Voilà. Et donc, c'est une enfance à la fois en pensionnat, à la fois avec son père, et surtout, cette rencontre qui, je pense, a vraiment déterminé sa vie avec Albert Beau. Dit l'oncle Albert dans une de ses chansons, son mentor et celui qui lui a vraiment beaucoup appris.
Alors on va venir à Albert Beausil, c'est fondamental, c'est la formation même du poète. Avant ça, disons un mot quand même de sa famille où l'on jouait de la musique.
C'est exact. Son père était musicien, son frère l'était également.
Mon père est musicien, mon frère est musicien, ma mère est musicienne, on connaît la suite.
Mon père est musicien, mon frère est musicien, ma mère est musicienne, elle joue de la harpe ancienne. Mon père joue du violon, mon frère du cymbalon, et moi, vous le savez bien, je ne joue de rien. Je joue à donner des visages aux nuages qui courent dans le petit jour. Parfois perdu dans le bocage, je joue comme les oiseaux d'amour.
Quel bonheur, Franck, quel bonheur.
C'est extraordinaire tout ça. Alors, il rencontre donc Albert Beausil et qui décèle en lui un vrai grand talent, très précoce. Il faut dire que l'enfant écrivait déjà des poèmes dès 7-8 ans.
Oui, il écrivait des poèmes dès 7-8 ans et surtout ce qui est extraordinairement frappant, et aujourd'hui je pense qu'on aurait du mal à retrouver une chose pareille sans aucune faute d'orthographe. C'est-à-dire que dès l'âge de 7-8 ans, un profond respect pour la langue française, un profond respect pour une très jolie calligraphie et tout. Et puis des lettres d'amour à sa mère qui sont extraordinairement bien écrites et qui bien plus tard, ont été mises en musique.
Alors, il y a des talents qui demandent de longues années pour éclore. Ça n'est vraiment pas le cas de Charles Trenet. À 20 ans, il est déjà connu. À 22 ans, c'est une star. C'est assez extraordinaire, cette histoire. Il monte à Paris, comme on dit, très tôt.
Il monte à Paris.
Après avoir fait cette tournée quand même, être allé grâce à son beau-père, il est passé en Allemagne, parce que son beau-père...
Il était très introduit dans le milieu du cinéma, Benno Vigny. Puis effectivement, il monte à Paris à l'âge de 20 ans. Fasciné par le cinéma, il devient accessoiriste de cinéma. Et puis, de fil en aiguille, évidemment, on se rend compte que ses talents dépassent largement le fait d'être accessoiriste, de transporter des décors, etc. Et là, ça part, et c'est une carrière dont je parle dans le livre, qui s'étale sur près de 70 ans, mon Dieu.
Oui, c'est ça.
De 18 à 88 ans, une carrière de 70 ans.
Alors, il y a d'abord un duo. Il ne faut quand même pas oublier le duo avec Johnny Hess, qui a été essentiel au
Charles
départ.
Charles et Johnny, juste avant-guerre, grosso modo, entre 36 et 39. Voilà, il a été effectivement essentiel pour lui, pour sa construction artistique et tout. Alors forcément, dans tout duo, il y en a un qui est un petit peu au-dessus de l'autre. Là, forcément, ce fut Charles. Et bien des années après, Charles a écrit une sorte de chanson pour Johnny, qui est également très très belle. C'est-à-dire que cette rencontre, je pense, on peut dire, a également illustré sa vie, oui.
Oui. Ils ont écrit ensemble un certain nombre de chansons. C'est Charles qui, en fait, est le poète de l'affaire. Oui. Il écrivait avec une facilité incroyable.
Alors, à l'époque, Charles écrivait plus les paroles et Johnny la musique. Parce que d'ailleurs, sur pas mal de photos qu'on voit, on voit Johnny au piano et Charles derrière. Mais après, et ça, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire chez Charles Trenet. Je dirais même que là, c'est presque comme une sorte de personnage élu. D'écrire des mélodies pareilles, sans avoir appris le solfège. Au début, en jouant sur deux doigts. Après, il s'est amélioré. Mais sans avoir appris le solfège, c'est tout simplement extraordinaire. Des mélodies qui restent aujourd'hui parmi les plus belles de l'histoire de la chanson française et de la chanson tout court.
Ouais, c'est vrai qu'il y a là une facilité qui est tout à fait incroyable. Il rencontre beaucoup de grands personnages aussi. Il fait la connaissance très tôt de Jean Cocteau, de Picasso, enfin de tout ce monde, et puis évidemment d'un certain nombre de surréalistes.
C'est-à-dire que Charles, dès le plus jeune âge, ne voulait pas se laisser encombrer par des personnes qui ne lui apportaient rien. il a toujours privilégié effectivement des grands artistes, pas nécessairement des musiciens ou des poètes, mais vous venez de le dire, des personnalités comme Max Ernst, comme Jean Cocteau et bien d'autres. Effectivement, ont eu beaucoup, beaucoup d'importance pour lui. Et Picasso également ont eu beaucoup d'importance. Il s'intéressait à tous les arts. Il s'intéressait naturellement à la poésie, à la musique, à la chanson, mais également à la peinture. D'ailleurs, il peignait lui-même.
Oui, bien sûr, oui.
Et pas mal du tout. C'est un artiste vraiment, vraiment complet. Vraiment complet.
Alors, il y a de la joie, c'est 1936. Oui. La chanson est composée à Istres. Oui. Et celui qui va la lancer, qui va en faire le tube que l'on connaît, c'est Maurice Chevalier. Oui, ça joue un rôle aussi, parce qu'il y a eu Jean Sablon aussi, il y a eu un certain nombre de grands interprètes qui ont en quelque sorte aidé à faire connaître Trenet avant que lui-même ne soit l'interprète de toutes ses chansons.
Mais c'est-à-dire qu'au départ, en fait, lui se destinait peut-être plus à être auteur, un peu plus tard compositeur pour d'autres, et notamment Jean Sablon, Maurice Chevalier, vous venez de les citer. Et puis au fond, après, je suppose que dans son entourage, personne d'entre nous autour de cette table n'y était, hein. Je parle d'avant-guerre naturellement,
mais, oui, ça,
mais je suppose que dans son entourage, on a dû déceler que sa voix était à l'égal de son talent d'auteur-compositeur.
Sa voix et son tempérament et sa personnalité comme ça explosive, lumineuse, ses grands quinquets ouverts, cette espèce... Et il était survolté, il faut bien dire, à une époque où ça n'était pas du tout l'habitude, c'est le moins qu'on puisse dire. On va bientôt l'appeler le fou chantant. Et puis c'est vrai que cette image, ce dessin très simple qu'en avait tiré Jean Cocteau va aider aussi à le faire entrer si jeune dans la légende. On écoute évidemment la chanson des chansons. Il y a de la joie.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie.
Il y a de la joie sur Europe 1, au cœur de l'histoire consacrée à Charles Trenet aujourd'hui, à l'occasion du centenaire de sa naissance. On retrouve Franck Ferrand et ses invités dans un instant sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle, elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit:
tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais tout seul dans mon coin.
On a l'impression qu'il est avec nous dans ce studio grâce à Christian Lebon. Bonjour Christian Lebon.
Bonjour.
Merci
Franck.
D'être venu nous reparler de Charles Trenet, parce qu'on avait fait une émission sur le fou chantant il y a déjà deux ou trois ans. Vous, c'est en chantant Il y a de la joie que vous avez connu Charles Trenet. Alors c'est un peu plus compliqué, il faut que vous nous expliquiez comment ça s'est passé.
Voilà, je chantais Charles Trenet, Il y a de la joie, c'est la seule chanson que je connaissais à l'époque. J'étais au Club Méditerranée à Agadir, une photo a été prise de moi, était envoyée à ma chère maman qui habitait Vierzon. Et ma chère maman l'a envoyé tout simplement aux éditions Rôle Breton. Pourquoi ? Parce qu'elle savait que mon désir le plus fou, eh bien, c'était de rencontrer le fou chantant. Et lorsque je suis revenu sur Paris, après une saison au Club Méditerranée comme animateur, un matin, à 8h du matin, j'ai reçu un appel et c'était Charles Trenet. Mais n'étant pas au courant de cette histoire, j'ai cru que c'était un canular. J'ai raccroché, il m'a rappelé, il était mort de rire, il me dit: écoutez, croyez-moi, je suis Charles Trenet, prenez mon numéro de téléphone et on va se voir, j'en suis persuadé. Alors j'ai pris son numéro de téléphone et quelques heures plus tard, ma mère me téléphone. Elle me dit, alors tu vas bien? Tu as bien chanté hier dans les cabarets? Je lui dis, écoute, il y a un farfelu qui se fait appeler Charles Trenet, qui me téléphone depuis ce matin. Grand silence au bout du fil. Elle me dit, mais ça se pourrait. Et je lui dis, pourquoi? Mais je lui dis, ouais. Alors elle m'explique, voilà, j'ai envoyé la photo. J'avais compris que j'avais eu au bout du fil le fou chantant, celui que je voulais connaître, voilà, celui qui a porté la joie, le bonheur. Je l'ai appelé, il était évidemment tendu de rire, et il me dit, mais voilà, si vous voulez, on se voit demain, à 11h précise, à la Varenne. Vous allez voir, c'est très facile à trouver. Le lendemain, j'y suis allé, mais je suis arrivé avec une heure de retard, parce que la maison de la Varenne, ce n'était pas évident à trouver. J'avais apporté un bouquet de fleurs, je ne savais pas quoi offrir à un poète. Il m'a reçu les bras ouverts, on a pris un peu de champagne dans la cour intérieure et au bout de 2 minutes, il s'est éclipsé avec ce bouquet de fleurs et je me suis aperçu qu'il replantait les fleurs coupées que je lui avais offertes. En fait, j'avais oublié une seule chose, c'est que j'étais dans le jardin extraordinaire oui, de ça. Charles Trenet.
C'est incroyable. Il y avait quand même un côté très surréaliste dans sa façon d'être et de vivre. Max Ernst n'était jamais loin, et on parlait de Robert Bozil. Il y avait... Est-ce que toute cette, on va dire, toute cette ambiance des années 30 était encore présente chez lui dans les années... Alors là, on est 80-90. Hein.
Oui, dans les années, au tout début des années 80. Oui. Mais Charles était plein de fantaisie, il apportait la joie, le bonheur, il avait horreur du ciel gris. Il avait horreur des gens qui se plaignent. Voilà, Charles voulait être entouré de gens avec le rire facile. Il me parlait souvent de Piaf, parce qu'il me disait que lorsque Piaf était à table avec lui, elle était toujours à se tordre de rire, qu'elle était drôle, qu'elle apportait la bonne humeur.
Vous savez qu'il y a quelqu'un qui connaît extrêmement bien Trenet également, c'est Jacques Pessis, bien entendu. Et Jacques Pessis vient de publier aux éditions Don Quichotte un Piaf Trenet, le dîner extraordinaire, où il imagine, et c'est passionnant à lire, il imagine une sorte de dialogue entre non seulement Édith Piaf et Charles Trenet, mais un certain nombre de leurs amis et confidents qui sont là. Et c'est une espèce de dîner qui n'en finit pas, qui se poursuit d'une maison à l'autre, etc. On a l'impression d'être en 1958 et de partager cette espèce de frénésie et d'appétit de vivre, en fait. C'est ça, Nelson Montfort, hein, qui caractérisait Charles Trenet, cette volonté de profiter de chaque instant, finalement.
Une gaieté extraordinaire dans ses chansons qui parfois masquait un petit peu de tristesse dans la vie. Il faut quand même reconnaître,
oui, hein,
je pense que Christian est d'accord.
Tout
et là, c'est là où je trouve qu'il est extraordinaire, parce qu'il n'a jamais, c'est un homme en plus profondément pudique, qui n'a jamais mis dans ses chansons que de la gaieté, de l'optimisme ou autre. Alors que, bon, je sais de sources sûres et de nombreux témoignages que parfois sa vie était un petit peu solitaire.
Mais d'ailleurs, il faut lire parfois les paroles des chansons. Hein. On se rend compte qu'il y a de temps en temps des aspects très noirs. Tout ça est chanté sur un ton très rigolo, mais ça peut être très noir aussi.
Bah, je chante, par exemple.
Il y a également beaucoup question de revenants dans ses chansons. Il était très attiré par les fantômes, etc.
Oui. Mais c'est vrai que Charles Trenet, en fait, c'était tout un paradoxe. Hein. Derrière ce côté, il y a de la joie, il y a la boutonnière, les yeux bleus, le sourire, la joie. Il y avait aussi cette solitude. D'abord, la solitude était un luxe. Il le disait lui-même, la solitude est un luxe pour fuir ce que les autres ne vous apportent plus. Mmh. Derrière tout ça, il y avait évidemment un homme solitaire. Il y avait un homme qui avait vraiment souffert de la vie, dès son enfance jusqu'à la fin. Évidemment, tout ça, comme c'était un homme pudique, il ne le disait pas.
Il tournait tout en pirouette, en fait, hein, c'est ça?
Oui, absolument.
Ça devenait des boutades, mais en vérité, la boutade cachait, nous dites-vous, une véritable blessure.
Bien sûr.
Alors, il y a une période qui est particulièrement dramatique, pas seulement pour Charles Trenet, mais pour toute la France, évidemment, c'est cette période de l'occupation. Il est à ce moment-là devenu la vedette numéro un, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est-à-dire qu'au moment de l'invasion allemande de 1940, tout le monde ne chante à peu près qu'une chose, et c'est « Monsieur, monsieur, vous oubliez votre cheval ».
« Monsieur, monsieur, vous oubliez votre cheval. Ne laissez pas ici cet animal, il y serait vraiment trop mal. Monsieur, monsieur, pour un pur sang dans un vestiaire, c'est triste de passer la nuit entière sans même coucher sur une litière. Comme il s'ennuyait et comme il bâillait, je chantais pour qu'il soit sage. Comme il avait faim, que j'avais plus de pain, j'ai donné un peu de potage. Monsieur, monsieur, chose pareille est anormale.
ne laissez pas ici cet animal, vous oubliez votre cheval.
Les thèmes des chansons viennent d'un peu partout, et notamment du cinéma américain, ce qu'on a tendance à oublier hein, parfois.
Oui, il était très fasciné par l'Amérique, et lorsque vous disiez une deuxième partie de carrière dont je parle également
ah,
pas mal dans le
tout
livre,
oui, bien sûr.
Pour lequel le Canada a eu beaucoup d'importance, le Québec, le Canada, même l'Amérique du Nord a été très importante pour lui, mais pour en revenir un instant à la Deuxième Guerre mondiale, vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait qu'il était effectivement au sommet et que, c'est peut-être un hasard, mais parmi ses plus belles chansons ont été les chansons qui ont été écrites au cœur des années noires. Et si je prends Douce France, que tout le monde connaît, qui a été vraiment écrite en 1943, au cœur des années noires, eh bien cette chanson a constitué, là aussi, très nombreux témoignages à l'appui, une sorte de, presque de second hymne national pour la résistance, parce qu'on voyait peut-être un petit peu dans cette chanson la lumière au bout du tunnel.
Exactement. Alors, après l'occupation, Charles Trenet va effectivement traverser l'Atlantique. Il va faire une sorte de nouvelle carrière aux États-Unis et au Canada. Nous y venons dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. De...
Charles Trenet, La mer, jolie chanson, hein, n'est-ce pas Franck ?
On en a tellement dit sur cette chanson écrite en 1943. Il faut revenir sur les circonstances de son écriture, Christian Lebon. Hein.
C'est parce La
que
mer.
On a vraiment tout dit. On a dit que ça avait été écrit en quelques minutes.
La mer, en fait, a été composée en 1943, alors qu'il se rendait de Montpellier à Perpignan. Il était dans le train. Il était avec Roland Gerbeau et Léo Cheliac.
Roland Gerbeau qui nous a quitté il y a très peu de temps.
Qui nous a quitté, voilà, 2 mois. Voilà, très peu de temps. Qui était un très proche de Charles Trenet. Parce qu'il faut dire que Charles Trenet lui avait donné quand même certaines chansons à notre ami Gerbeau, La mer. Il lui avait donné aussi Douce France. Et puis aussi, Que reste-t-il de nos amours? Avant même que Charles ne les enregistre. Donc ça, c'est très important. Donc ils sont arrivés à Perpignan. Charles, en 20 minutes de temps, avait composé cette chanson. Et ensuite, eh bien...
En regardant la mer depuis le train,
non,
hein, c'est donc
pas
ça,
la mer, les étangs de
Les
taux.
Étangs d'ailleurs, oui, c'est ça.
Oui, pas la mer justement, les étangs de taux. Et c'est à partir de là que cette chanson a été composée. Ils sont arrivés à Perpignan, l'histoire de quelques minutes, ça a été mis sur papier à musique. Mais au début, Charles n'en voulait pas. Il ne voulait absolument pas la chanter. Il avait même proposé à une chanteuse qui s'appelle Suzy Solidor, qui l'a rejetée en prétextant « Oh, des chansons sur la mer, on m'en envoie 10 par jour ». Elle n'en voulait pas non plus, personne n'en voulait. Donc c'est Roland Gerbeau qui l'a enregistré, qui l'a chanté au début, et c'est à partir de 1946 que l'éditeur Raoul Breton a voulu que ce soit Charles Trenet lui-même qui la chante. Et je crois qu'il avait raison, parce qu'on connaît la suite, c'était quand même un très grand succès.
Charles Trenet quitte l'Europe parce qu'il y a quand même un climat assez malsain à la Libération. On va lui reprocher, comme à beaucoup d'artistes, d'avoir chanté pendant l'occupation, alors qu'entre nous soit dit, il l'a fait souvent pour aider, et il a rendu de nombreux services, hein, notamment en allant chanter à Bruxelles
J'en parle dans mon livre. Il devait faire 3 concerts en Allemagne. Il a rendu la vie tellement impossible à ses accompagnateurs que finalement il n'en a fait qu'un. et Trenet a été doublement inquiété. Il a été inquiété pendant la guerre.
Parce qu'on disait qu'il était juif.
Voilà, que son nom était un anagramme de Netter, donc nom à consonance israélite. Donc il a dû prouver
s'est retrouvé à la Gestapo et tout
ça. Exactement. Certificat de baptême à l'appui que ce n'était pas le cas. Et puis au sortir de la guerre, il est passé devant un comité d'épuration pour se justifier d'avoir prouvé qu'il n'était pas juif. Donc, et là, il est tombé sur un jeune lieutenant très compréhensif qui lui dit, bon, écoutez, fichez-lui la paix. Il a écrit cette chanson « Douce France », il ne s'est jamais compromis avec l'ennemi.
Il a même été blessé par la Gestapo à la Varenne, un soir. Et lorsqu'il a été hospitalisé, à côté de lui, il y avait un homme qui s'appelait Henri Veil.
Qui va devenir son meilleur ami.
Qui va devenir son meilleur ami jusqu'à la mort, puisque Henri Veil a dû mourir 2 mois avant Charles.
Vous l'avez connu, bien sûr.
Très, très bien. C'est un être absolument charmant, délicieux, drôle.
On dit qu'ils se sont vouvoyés.
Toujours. Ouais. Ils se vouvoyaient. Mais ils avaient beaucoup de respect. Absolument.
Alors Charles Trenet est donc de l'autre côté de l'Atlantique. Il devient une vedette aux États-Unis, au point même qu'il finit par se mettre à chanter en anglais, à parler en anglais. Il donne toutes sortes d'interviews, etc. Il est presque devenu à une époque un chanteur américain. Et puis voilà que on lui ouvre un nouvel horizon. C'est celui du Canada, en fait.
C'est exact. Il y a aussi une anecdote. Un soir dans les rues de New York, il est dans un taxi et puis on entend la musique de la mer. Et le chauffeur de taxi se met à fredonner cette et Charles se dit, mon Dieu, si je lui dis que c'est moi qui ai écrit cette chanson, il ne va jamais me croire. Mais il faut quand même reconnaître qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est que très rarissimes sont les artistes d'expression française qui arrivent à s'exporter. Déjà en Angleterre, c'est pratiquement impossible. En Amérique, c'est encore plus impossible. Ben lui, il est parvenu à un moment parce qu'il a sa carrière. Et puis après, effectivement, il y a eu le Canada.
Il a découvert le swing, on va dire, très tôt. Le jazz l'a beaucoup marqué. Et au Canada, il découvre un nouveau mode de vie. On va dire qu'il a toujours quasiment une génération d'avance sur ses contemporains. Il réimporte tout ça en France. Alors bien entendu, ça a l'air très moderne quand il revient.
Lorsqu'il revient et lorsqu'il
revoir
est à...
Revoir Paris.
Revoir Paris, oui. Bien sûr. Et c'est assez drôle parce que voilà, très peu de temps, voilà quelques jours, j'ai fait connaissance d'une dame qui s'appelle Guylaine Guy. Et Charles l'a rencontrée à Montréal. Il lui a donné plusieurs chansons, dont... Bonsoir, jolie madame, qui est une chanson très connue de Charles Trenet. Il l'a engagée ensuite à Paris. Elle a fait sa première partie à l'Olympia. Et cette dame, eh bien, on s'est connue, voilà, très peu de temps. Elle m'a raconté tout ça. C'est formidable. On s'aperçoit que là, on parle de Roland Gerbeau, on parle de Guylaine Guy. Eh bien, Charles donnait la chance à ces jeunes pour être connus, reconnus et aimés du grand public. Et même jusqu'à la fin, parce que Charles a voulu ensuite pérenniser son nom, aider toujours les auteurs-compositeurs. C'est pour ça qu'il nous a donné, Anthony Dumas et à moi-même, l'autorisation de monter une association qui porte son nom.
Vous disiez tout à l'heure, Christian Lebon, qu'il était solitaire dans l'âme. Et en même temps, combien de parcours, combien de destins a-t-il croisé, hein ? C'est incroyable le nombre de personnes qui ont un souvenir personnel, ou plusieurs souvenirs, avec Charles Trenet. Il a marqué beaucoup de vies comme ça. C'est
notamment Charles Aznavour, dont je parle également dans le livre. Aznavour, à qui on a demandé, ça va vous amuser ça, à qui on a demandé, y a-t-il aujourd'hui des successeurs de Charles Trenet parmi la jeune génération d'artistes, etc. Et Aznavour a simplement répondu, ne rêvons pas.
Oui, c'est assez voilà. Bien dit. Oui. Ça résume là, un peu la situation. Combien de chansons célèbres ont été éditées sous le nom de Charles Trenet?
Déjà, je parle là sous la responsabilité de Christian qui connaît parfaitement son œuvre puisqu'il l'interprète avec ô combien de talent.
Oui, d'ailleurs, une parenthèse, Christian, quand est-ce qu'on peut vous entendre? Parce que les téléspectateurs, les auditeurs précisément ne peuvent pas vous voir, mais vous avez une ressemblance tout à fait frappant avec Charles
Trenet. Il est souvent passé à la télévision.
Quand vous chantez, c'est impressionnant. C'est quand la prochaine fois?
Alors la prochaine fois, c'est les trois derniers vendredis du mois de mai. C'est à 21h et c'est dans un théâtre charmant qui s'appelle Darius Milhaud, qui est dans le 19e arrondissement à Paris. Et alors là, de la joie, du bonheur, tout le monde chante Charles Trenet et croyez-moi, ça fait du bien. Du reste, il faut dire que chanter Charles Trenet ou l'entendre devrait être remboursé par la Sécurité sociale.
Oserais-je dire que j'ai aussi un petit tour de chant autour des chansons de Jean Ferrat et de Charles Trenet au Transhumance Musical de Las dans les Pyrénées-Atlantiques, jeudi prochain, le jeudi de l'Ascension.
Mais on découvre des choses extraordinaires, voilà, Nelson. Bon, voilà.
Mais avec Nelson, alors, je crois que l'on va faire un duo.
Bien,
ce serait bien. Ça,
si on le dit aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1, nous sommes obligés de tenir parole.
Nous sommes obligés de tenir parole.
Vous l'avez
parole.
Dit devant témoin. Alors revenons à cette question. Combien de grands succès?
Ah, de grands succès. Je pense que autour
plusieurs
de
plusieurs centaines.
Oui, j'allais dire. Je m'apprêtais à dire 200. Je m'apprêtais à dire qu'il y a 200 chansons de Trenet qui sont des chansons quand même très connues. Et parmi ces 200, il y a, allez, on va dire entre 50 et 80 tubes immortels. Et parmi ces 50 ou 80, il y en a une dizaine qui sont dans toutes les oreilles et je pense pour toujours.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Fidèle, je suis resté fidèle à des choses sans importance pour vous. Un soir d'été, le vol d'une hirondelle, un sourire d'enfant, un rendez-vous. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des riens qui pour moi font un tout. Un vieux
C'est une spéciale dédicace pour Nelson Montfort. C'est un peu votre chanson préférée, cette.
Oui, je trouve que cette chanson qui lui ressemble vraiment. Déjà, je trouve que le mot fidèle est l'un des plus beaux mots de la langue française. Et de ce que je sais de Charles Trenet, c'est un mot qu'il affectionnait énormément. Et alors, dans cette chanson, on retrouve son enfance, sa jeunesse. Je suis resté fidèle, effectivement, au port de la Nouvelle au mois d'août, à l'oncle Albert, une tante Émilie, une maman partant pour Budapest. Tout ça est réel.
En fait, il était très pudique, ça c'est certain, mais en même temps, on voit constamment affleurer dans les paroles des chansons toutes sortes d'éléments qui font directement référence à sa vie quotidienne, à ses amis, à son entourage.
Il faut dire que Charles Trenet composait tous les jours une nouvelle chanson. Hein. Tous les matins, on entendait de nouvelles notes, de nouvelles mélodies. Et le surlendemain, s'il revenait à cette chanson, il commençait à s'y intéresser, et là, la chanson était enregistrée. Donc c'est très difficile, c'est vrai, à dire combien de chansons Charles Trenet a pu composer, puisque c'est presque tous les jours. C'était une nécessité pour lui. Bien évidemment, il parlait de ses amis, de la nature, Dame Nature, ouais. Sa grande amie de tous les jours. Parce que Charles Trenet, c'est ça aussi. Il était solitaire, il était homme de scène, il aimait le public, mais il aimait soigner sa ligne, par exemple, mais il aimait aussi aller dans les bons restaurants.
Il est bourré de contradictions, en fait, parce que d'un côté, on le voit faire des pompes, il soulevait des haltères, etc.
Pompes, piscines, sauna, marche à pied, tout ce que l'on veut. Mais à côté de ça, lorsqu'on arrivait à table, et vous savez, les serveurs, lorsqu'ils nous voyaient arriver aux alentours de 20h, surtout le soir, ils savaient que la soirée serait difficile, parce qu'on en sortait
longue, parce qu'on n'en sortait qu'à
partir de 2h du matin. Il dévorait le présent, mais en même temps, il était curieux du futur et nostalgique du passé. C'était un attentionné et un provocateur à la fois. Charles Trenet, c'était tout ça à la fois. Voilà, c'était un paradoxe.
Et avec toujours ce fond de nostalgie, d'une forme de tristesse, nous disiez-vous.
Ah oui, par exemple, il y a une chanson. Alors, je suis content de la citer parce qu'elle est un petit peu moins connue. Elle s'appelle « Il y avait des arbres
».
Je trouve que c'est une chanson merveilleuse parce que « Il y avait des arbres du côté du château, une atmosphère Louis XIII du vin chaud ». Cette chanson, chaque parole qui tombe sur les notes ou chaque note qui tombe sur les paroles de façon... Puis en même temps, « Il y avait », c'est l'imparfait, c'est la nostalgie, c'est la France heureuse. C'est « Il y avait Thérèse et de la poule au pot ». Enfin, c'est une merveille.
Une autre merveille qu'on va entendre, parce que je ne résiste pas, c'est « J'ai ta main ». Vous savez, ça, c'est très beau.
« J'ai ta main dans ma main, je joue avec tes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux, et partout l'on ne voit que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux qui fleurit tour à tour, tendre et mystérieux. Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur, et dis-moi qu'il n'est pas de plus charmant bonheur
que ses yeux dans le ciel, que le ciel dans tes yeux. Mais les yeux de qui alors? C'est la vie privée de Charles Trenet, c'est un grand mystère en soi.
Je pense qu'il voulait se retrouver. Il aimait se retrouver seul, Charles Trenet. Il aimait composer dans cette merveilleuse demeure d'Aix-en-Provence.
Il avait de très belles maisons, hein. Il en a eu plusieurs.
À Jean Lipin.
Extraordinaire. Une à la Varenne qui était
une
pas
à la Varenne, qui était vendue assez rapidement, où il y avait sa maman aussi qui habitait avec lui. Il y avait aussi à Perpignan, rue de la Villa Seca. Et il aimait beaucoup aussi Port-la-Nouvelle. Il passait toutes ses vacances
Port-la-Nouvelle. Et il aimait Gruissant.
Et il adorait Gruissant, qu'il a chanté aussi.
Il collectionnait les grosses voitures.
Ouais. Les très belles américaines, notamment.
Ouais. Il descendait sur la National 7. En grande
ça, voilà. National 7, je pense vraiment, c'est vraiment l'une de ses toutes grandes chansons aussi.
Est-ce qu'on peut dire qu'au quotidien, il y avait de temps en temps des trêves, si je puis dire? Parce que voilà un esprit très flamboyant, qui compose, vous nous dites, une chanson chaque jour, qui fait constamment des jeux de mots. On s'en rend compte aussi dans l'ouvrage de Jacques Pessis, hein, c'est bourré de calembours, de jeux de mots, etc. Mais est-ce que de temps en temps, il se calmait, si je puis dire? Et est-ce qu'on pouvait avoir des conversations sérieuses, posées, en quelque sorte, oui?
Heureusement, bien sûr, mais surtout lorsqu'il allait faire un spectacle. Parce qu'il était très respectueux du public, une quinzaine de jours avant de faire un spectacle ou une série de spectacles. Alors là, il n'y avait plus de grands restaurants. On allait dans un petit restaurant du côté de Vincennes, tout simplement. Et c'était le sport. Le sport était au rendez-vous au quotidien.
Il s'entraînait.
C'était du sport d'être sur scène. Il le savait. Il respectait son public.
Ce dont vous parlez là, c'est la deuxième carrière de Charles Trenet, hein, ou la troisième si l'on compte la carrière américaine comme une deuxième. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment où il est un peu passé de mode, où il est considéré, on continue à l'inviter, mais alors à chaque fois qu'il arrive dans, je me rappelle très bien, moi quand j'étais petit, quand il arrivait dans une émission de télé, c'était l'événement de l'année. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait déplacé un monument. Bon, c'était assez étonnant. Et puis d'un seul coup, il redevient à la mode. C'est-à-dire que ça n'est plus Charles Trenet qui vient nous chanter les chansons de 1950. C'est un nouveau chanteur qui... c'est le Printemps de Bourges qui l'a relancé. Hein.
C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu sa maman. Et ça, pour lui, c'était vraiment terrible. Il voulait arrêter de chanter. Il était seul à la Varenne. Il voulait voir plus personne. Et en fait, c'est un monsieur qui s'appelle Gilbert Rozon, que les auditeurs doivent connaître.
Bien sûr, oui.
Gilbert Rozon, qui lui a donné goût à reprendre la scène. Alors, les conditions n'étaient pas faciles, évidemment, parce que Charles ne voulait plus du tout chanter. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et ça a été vraiment une renaissance.
Donc, c'est une renaissance au Québec, dans un premier temps?
Oui, je parle dans mon livre de cette rencontre entre Rozon qui frappe à sa porte. Charles ne veut pas ouvrir. Il insiste, il réinsiste. Et Charles, finalement, lui ouvre et va lui proposer des conditions financières tellement extravagantes qu'il est persuadé que Rozon va dire non. Et en fait, Rozon va dire oui. Et je crois que tous les deux s'en sont extrêmement bien portés. Mais j'aimerais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Christian, c'est que pour moi, les derniers albums de Charles Trenet valent largement les autres. Mon cœur s'envole, qui je crois est parmi ses derniers albums, recèle un certain nombre de trésors, peut-être un peu moins connus, et j'ai également voulu les développer dans mon ouvrage.
Le roman de Charles Trenet de Nelson Montfort s'est édité, ou Rocher bien entendu, dans la collection de notre ami Vladimir Fedorovski.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Mon cœur s'envole vers toi, et tout seul, tendrement, je revois le temps si court de ton dernier séjour, où tous deux nous vivions notre amour. Un jour tu reviendras, je sais, oui, je le crois, pour venger le destin de nos minutes de rêve. Hélas, je ne peux plus te rencontrer qu'on rêve. En attendant, toujours ardent, mon cœur s'envole vers toi, dans un ciel d'espoir et de dimanche. Ce sera la plus belle des revanches, quand la vie nous réunira, et dans l'envie de cette joie, mon cœur s'envole vers toi.
En 1992, mon cœur s'envole vers toi sur Europe 1 et une émission spéciale aujourd'hui consacrée à Charles Trenet.
Alors qu'on va célébrer dans quelques jours le centenaire de Charles Trenet, ça paraît fou hein, qu'il aurait eu 100 ans s'il était toujours
avec
nous.
C'est fou parce que Charles avait une maladie terrible, c'est qu'il avait oublié de vieillir.
Ouais, c'est ça.
C'était resté
une très jolie maladie.
Mais vous l'avez vu composer, vous, cette chanson qu'on vient d'entendre,
Oui.
Mon cœur s'envole.
Absolument. Les dernières chansons, la plupart de ces dernières chansons, je les ai entendues, évidemment, puisque les premières notes, eh bien, résonnaient en général à Aix-en-Provence, dans ce manoir où il aimait composer.
Il a composé des chefs-d'œuvre dans la dernière partie de sa carrière, dans sa dernière partie de vie, on va dire, des chefs-d'œuvre, et Mon cœur s'envole en est assurément un. Il y en a d'autres, il y a Gilles, je t'achète une automobile que j'adore. Nous, on rêvait,
nous,
comme
on
dit Christian.
Avec des bruitages aussi, hein. Il y a des bruitages sur le dernier disque qui sont.
Et connaissez-vous Marie Tudor? C'est une merveille de chanson avec un jeu de mots, mais exquis, parce que la chanson est assez triste, en fait. C'est Marie Tudor, on peut penser à la reine d'Angleterre, mais en fait, c'est Marie Tudor. Enfin, tout ça.
Et ce qui est quand même remarquable, c'est qu'après, donc là, quand on est dans les années 90, ça fait quand même 60 ans qu'il écrit des chansons, qu'il les chante et qu'il est au sommet de l'affiche. Hein, c'est quand même incroyable. Et il est absolument fidèle à son style. Et d'ailleurs, il s'en expliquait lors de la journée spéciale Charles Trenet sur Europe 1, une journée qu'aucun d'entre nous n'a oublié. C'était le 17 octobre 1989. Il s'en expliquait au micro de Jean-Pierre Elkabbach.
Je me dis que, quitte à avoir un certain style, il vaut mieux le garder, car le style, c'est la personnalité. Et alors, si on s'embarque dans toutes les modes, moi, même autrefois, quand j'ai commencé à lancer cette mode du swing, quand j'ai vu que tout le monde en faisait, ma réaction, c'est de faire une valse musette, c'était la romance de Paris.
C'est la romance de Paris que d'ailleurs Charlie Chaplin va reprendre dans un de ses films, la comtesse de Hong Kong.
Hong Kong, exactement.
Alors c'est un homme qui va donc connaître de nouveau la gloire, chez les plus jeunes notamment. Je me rappelle certains récitals où la salle était remplie de jeunes.
Hein. Au Printemps de Bourges.
Au Printemps de Bourges, alors là, n'en parlons même pas.
Il a fait un tabac, moi j'étais avec lui, il a fait un tabac. Il a fait deux fois le Printemps de Bourges, une fois avec Higelin, une deuxième fois seul, et à la réalisation, Serge Gainsbourg, et il y avait des caméras qui s'approchaient de Charles, et Charles était toujours à dire « Repousse-toi, repousse-toi, repousse-toi », parce qu'il n'aimait pas avoir les caméras proches
de lui. Il avait des exigences, alors je me rappelle, ce sont des confidences ça, de réalisateurs de télé, mais qui disaient qu'il avait quand même des exigences invraisemblables quand il était sur un plateau de télé, notamment il ne fallait pas que les caméras s'approchent à moins de 5 mètres.
Hein, c'est... Pas trop près de lui, oui. Voilà. Et puis aussi exigences avec les ingénieurs du son, mais ça c'est un peu normal, parce qu'il s'appelait Charles Trenet. Bon, moi je me souviens qu'un jour, il était en déplacement, le son n'était pas très bon, et bien il a failli partir.
Ouais, c'est ça,
mais
ouais.
Oui, mais on peut... lorsqu'on s'appelle Charles Trenet,
on peut pas décevoir.
Si le son est mauvais, les gens repartent en disant le chanteur n'était pas bon. Vous comprenez, c'est ça.
Ça fait partie du respect du public qu'il avait profondément en lui. Profondément en lui.
Et alors, il venait saluer évidemment à la fin. Alors, il y avait tout un petit rituel, hein, puisque moi j'ai assisté quand même à une dizaine de récitals, donc j'ai vu que c'était à peu près toujours là. Ça finissait à peu près toujours de la même façon. Il chantait toujours, donc la mer, je chante. Et puis ça finissait par il y a de la joie avec le chapeau, le feutre en auréole. Et ce qui était incroyable, c'est que le public à chaque fois, et c'était un tonnerre d'applaudissements, tout le monde était debout dans la salle, et puis ne revenait pas.
Non, mais je me
saluait une fois très chaleureusement, et puis c'était fini. Comme s'il fallait laisser une sorte de désir encore.
Mais c'est très important, parce qu'il avait tout compris. C'est très important de laisser justement ces sentiments de désir.
Inachevé un petit peu.
Mais c'est très important, et il avait une manière d'introduire ses chansons en parlant au public. Chaque chanson, nous aimons tous les vacances, mais le dernier jour des vacances est un jour un petit peu mélancolique. Voici le vieux piano de la plage. Ben voilà, je trouve que c'est merveilleux, quoi. Ça, c'est
avec,
le Trenet.
Alors, avec, bien sûr, il y a eu les grands accompagnements, l'orchestre de la garde républicaine, l'orchestre de l'Opéra de Paris et les chœurs, d'ailleurs, pour la fameuse soirée des 80 ans. Oui. Mais sinon, il y avait deux pianistes et un contrebassiste, qui ne sont pas des inconnus, hein, du reste.
Non, il y avait Christian Rémy, Roger Pouly et bien sûr, Pierre-Nicolas.
Pierre-Nicolas, qui avait accompagné Brassens
à la contrebasse, évidemment, bien sûr. Mais Charles Trenet commençait toujours, en général, pour les dernières années, son tour de chant avec Le visage de l'amour. C'est une chanson qu'il avait composée pour Dalida, parce qu'un jour, il avait entendu Dalida dire à la télévision « Le public, pour moi, c'est le visage de l'amour ». Il lui a proposé une chanson. La chanson était enregistrée pour Dalida et ensuite, il l'a chantée pour débuter son tour de chant.
Il n'est pas entré à l'Académie française et ça a été un regret de la fin de sa vie.
Oui, parce que je pense que vraiment, il aurait tout à fait dû y entrer.
Ça fait partie des ratages de l'Académie, ça, on peut dire. Le fameux 41e fauteuil. Hein.
Totalement. C'est tout à fait incompréhensible. Mais je pense que, si j'ose cette formule, Charles n'a pas besoin de l'Académie pour être immortel.
Non, ça, évidemment. Il aimait bien les décorations, les hommages, etc. Ça faisait partie du personnage.
Mais elles étaient méritées.
Elles étaient méritées, tout à fait, oui. Il était décoré par Chirac, il était décoré par Mitterrand.
Il faisait pas de politique. Lui, par Jacques personnel. Lang.
Non, il n'avait pas d'amis politiques. Il n'avait que des amis poétiques.
C'est comme ça qu'il le disait.
Et en plus de ça, il faut savoir que Charles Trenet n'avait jamais voté de sa vie. Hein. Jamais. Voilà. Il préférait la poésie à la politique. Il n'avait peut-être pas tout à fait tort.
Il se trouve que c'est Jack Lang, François Mitterrand, etc. qui l'ont un peu remis en selle. Donc il y a eu une sorte de connivence sur la fin, mais ça n'était pas une des amitiés politiques.
Non, politique. Le Printemps des Poètes, par exemple, j'ai assisté, j'étais avec Charles, c'était dans son studio à la Maison de la Radio, lorsqu'il a enregistré le Printemps des Poètes, hein, le premier Printemps des Poètes.
Il a chanté jusque très tard, puisque lorsqu'il chante sur la scène de Bastille, il a 80 ans, oui. Il va continuer encore par la
jusqu'à
suite.
La salle Pleyel.
Ouais, c'est ça. Hein.
Les trois derniers concerts de la salle Pleyel.
C'est 98, évidemment. Ça
C'était en 98.
Ouais, c'est ça. Absolument. Donc c'est vraiment très tard, puisqu'il il est mort donc en 2001.
Oui, il est mort en 2001. Il a eu deux attaques cérébrales et la deuxième lui était malheureusement fatale.
Longtemps, après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur.
Vous nous disiez, Christian Lebon, que la sœur de Charles Trenet est toujours de ce monde. En fait,
oui, hein, tout à fait. Lucie Trenet, bien sûr. Il a toujours sa sœur, demi-sœur, Lucie Trenet, et ses deux neveux, François et Wilfranc. Et Wilfranc, du reste, est un excellent compositeur. Voilà, il fait de la musique, il vit de ce métier, comme son oncle.
Et d'ailleurs, vous êtes venu, vous, avec Anthony Dumas, qui dirige l'association Charles Trenet.
Voilà, Anthony qui dirige l'association Charles Trenet, c'est lui qui a fondé donc cette association. Et Charles Trenet en était le président d'honneur pour pérenniser le nom de Charles, découvrir de jeunes talents. Et une fois par mois, eh bien, nous sommes au Darius Milhaud pour découvrir toujours ces jeunes chanteurs, auteurs, compositeurs, parce que c'est ça aussi la vie.
Alors, votre ouvrage à vous qui s'appelait « Appelez-moi à 11h précise oui, », c'est ce qu'il vous avait dit aux éditions Carpentier, était paru en 2008. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais sur Internet, probablement, on doit le trouver. Et puis, bien sûr, le roman de Charles Trenet, de Nelson Montfort, plein de, on peut dire que c'est plein de verve. Hein, vous avez mis là tout cet enthousiasme qu'on vous connaît, Nelson, dans cet ouvrage. De Jacques Pessis, « Piaf Trenet, le dîner extraordinaire », j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, une autre biographie qui sort à l'occasion de ce centenaire, Charles Trenet à ciel ouvert, c'est de Jean-Philippe Segaud et c'est édité chez Fayard. J'ai l'impression que le personnage n'a pas fini de faire couler de l'encre. Hein, c'est...
Ça c'est sûr. Et puis aussi plein de notes dans la tête. Je tenais simplement à dire que je suis accompagné au piano par Alexandre Mellet, qui est un garçon absolument charmant, délicieux. Et c'est vrai que sans lui, eh bien...
Au théâtre Darius Milhaud, les vendredis 17, 24 et 31 mai à 21h. On y sera bien entendu. Ah, le 18 mai, c'est à la salle Olympe de Gouges à 17h.
Absolument.
Merci beaucoup,
merci à vous.
Et merci Nelson d'avoir rendu ce bel hommage à Charles Trenet.
Et plus que jamais, il y a de la joie.